Chapitre 56. Vibrante d'indignation, Torah dévisagea son adversaire au-dessus de la flaque qui reflétait toujours des images compromettantes.
« Une étrangère ne peut rien m'imposer, magicienne. Nous t'avons accueillie parce que tu as le don, mais je commence à regretter notre sens de l'hospitalité. »
Nietzsche ne dit rien, attendant que son défi soit officialisé. En elle, le don brûlait d'envie de se déchaîner. Tel qu'en lui-même, Maxime ricana avant de lancer.
« Regrette jusqu'à la fin des temps si ça te chante, mais ça ne changera rien au fait. Tous les membres du conseil connaissent nos lois, juste au cas où elles n'ont pas bougé depuis ton conflit contre l'Ani. Tout détenteur ou toute détentrice du don peut contester le pouvoir en place et demander qu'ait lieu un défi magique. » En d'autres termes, un combat, l'interprétation choisie par nos traditions.
La souveraine foudroya son mari du regard.
Ce que tu dis est vrai, même si cette magicienne arriviste entend contourner nos lois au profit de ses vils intérêts.
Torah dévisagea les conseillers pour déterminer dans quel camp chacun se rangeait. Sans rater une miette du spectacle, Adessa s'appuya contre un mur et croisa les bras. Les doigts repliés, Nietzsche garda les siens ballants.
« Alors, Torah, » s'impatienta Maxime, « qu'en dis-tu? Nous n'avons pas toute la nuit devant nous. »
La souveraine planta son regard dans celui de Nietzsche.
« Moi aussi je connais les lois d'Ildakar, et je sais quel recours elles m'autorisent. N'importe qui, c'est vrai, peut défier la dirigeante suprême de la ville. »
Elle eut un sourire mauvais.
« Mais dans ma position, j'ai le droit de choisir un ou une championne. »
Torah leva la tête, faisant osciller son incroyable chignon.
Cette étrangère ne mérite pas que je m'occupe d'elle. Adessa, je fais de toi ma championne.
Se dirigeant vers l'estrade, Torah eut un geste méprisant.
Tue cette personne pour moi.
Les conseillers en crièrent de surprise, à part André qui ricana.
Voilà qui risque d'être intéressant, non?
Nietzsche se tourna vers la Morassite, qui affichait la plus parfaite des contractions. Levant sa main gauche gantée, elle tapota de la droite la poignée de son épée, puis elle approcha d'une démarche presque lascive, comme si tout combat était pour elle une occasion de se distraire un peu. Alors que la souveraine se rasseyait, Nietzsche lui lança une pique.
« Tu ne livreras pas ta propre bataille? Pas même pour défendre ta position ?»
Torah s'adossa à son siège et tira sur le devant de sa robe en soie bleue.
Je trouve bien plus amusant d'observer. Adessa, ne me déçois pas.
La Morassite dégaina son épée.
Ne t'inquiète pas, Sovrena. Dans les fosses, j'ai remis à sa place plus d'un chiot arrogant. Tous ont une nette tendance à se surestimer jusqu'à ce qu'ils gisent dans la poussière. Pour cette magicienne, ce sera pas différent.
Nietzsche chercha le regard de la Morassite. Couverte de cicatrices, Adessa avait dû survivre à plus d'un combat à mort, mais le duel à venir serait son dernier. Avec un cri de rage, Adessa chargea et frappa. Nietzsche esquiva, puis leva les mains, ses doigts impatients de déchaîner la magie accumulée en elle. En un éclair, une boule de feu de sorcier se matérialisa au-dessus de ses paumes. Pourquoi faire durer le combat et concéder à Adessa l'honneur d'avoir bien résisté? Il fallait boucler rapidement cette affaire, puis régler son compte à la souveraine. Nietzsche lança sa boule de feu qui percuta sa cible à la poitrine. Aussitôt, les flammes se répandirent sur tout le corps de la Morassite. La caractéristique majeure du feu de sorcier, l'arme la plus terrifiante en possession de Nietzsche. Dès qu'elles entraient en contact avec leur cible, ces flammes la carbonisaient jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. Rien ne pouvant les éteindre, un simple contact suffisait. Pourtant, elles glissèrent sur les runes d'Adessa comme de l'eau sur les plumes d'un canard, puis se dissipèrent dans l'air. La Morassite n'en fut même pas ralentie. Au dernier moment, Nietzsche évita un coup qui visait sa gorge. La frôlant, la lame coupa au passage une mèche de ses cheveux. Nullement déséquilibrée, Adessa attaqua de nouveau. Nietzsche lança un point d'air si condensé qu'il aurait dû écrabouiller son adversaire. Là encore, le sort se dissipa comme une volute de fumée chassée par une brise printanière. Elsa poussa un petit cri, et André eut une sorte de gloussement. Du coin de l'œil, Nietzsche vit que Torah jubilait méchamment. Les jambes croisées, Maxime souriait aux anges, comme s'il ne s'était plus amusé autant depuis des lustres. Le souffle d'air de Nietzsche ricocha le long des murs et fit trembler les fenêtres, mais Adessa était indemne et elle avançait toujours un point levé. Le direct toucha Nietzsche à la mâchoire. La peau éclatée par le gantelet de fer, la magicienne tituba. Par miracle, elle parvint à reculer assez pour esquiver un coup d'épée qui leur était ventré.
« Ta magie n'a aucun effet sur une moracite. Tu aurais dû le savoir !»
Toujours sonné par le coup à la mâchoire, Nietzsche secoua la tête puis s'éclaircit les idées.
« Dans ce cas, je vais te combattre sans elle !»
Regard rivé sur son adversaire, la magicienne dégaina ses deux couteaux.
« Pour moi, ça ne fait aucune différence !»
Thora se pencha pour parler à son mari.
« Je te parie que ce sera vite réglé. Maxime, je sais que tu es derrière tout ça. La magicienne paiera et toi aussi. »«
Ne va pas trop vite en besogne, ma chère épouse. Attends de voir la suite. »
Ses deux armes au poing, mais sans trop les serrer, Nietzsche tourna lentement autour d'Adessa. La lame de l'épée était bien plus longue que celle des couteaux, mais la magicienne aurait en principe l'avantage de l'agilité. Encore que... sa robe limitait quand même un peu ses mouvements, alors qu'Adessa ne portait rien qui puisse la gêner, ni la protéger. Après avoir feinté de la main gauche, Nietzsche attaqua de la droite, mais son adversaire ne tomba pas dans le panneau. L'attaque esquivée, Adessa voulut passer sous la garde de Nietzsche. Exactement ce que celle-ci attendait. Lâchant son couteau de droite, elle saisit au vol le poignet de la moracite, histoire de garder l'épée le plus loin possible d'elle, puis elle lui écrasa un pied avec le sien. Sous la violence du choc, un craquement d'os retentit. Adessa eut un rictus mais ne cria pas. Son poing ganté partit à la vitesse de l'éclair et percuta l'estomac de Nietzsche qui se plia en deux, le souffle coupé, mais se reprit à temps pour dévier avec son couteau un coup de taille assez fort pour l'éventrer. Comme si elle avait oublié son pied cassé, Adessa chargea, pataugeant dans la flaque d'eau de Thora. La magicienne recula, se jeta sur le côté et lança un sort, mais pas directement sur la moracite. Drainant les dalles de toute leur chaleur, elle transforma en glace l'eau répandue sur le sol. Emportée par son élan, Adessa ne put pas s'arrêter à temps, glissa et s'étala. Alors qu'elle tentait de se relever, Nietzsche lui sauta dessus. En position dominante, elle leva sa lame pour porter le coup de grâce, mais la moracite, en un effort désespéré, lui bloqua le poignet. En force pure, la magicienne ne faisait pas le poids contre une telle guerrière. Bizarrement, puisqu'une seule main lui suffisait pour empêcher la magicienne de la poignarder, la moracite lâcha son épée. Du coin de l'œil, Nietzsche vit qu'elle décrochait de sa ceinture un petit cylindre noir. Une aiguille en jaillit. Sans attendre, Adessa l'enfonça dans le flanc de la magicienne. Aussitôt, la douleur qui lui vrilla les nerfs la contraignit à lâcher son couteau. Les muscles en coton, elle faillit basculer en avant, la tête tournant comme une toupie. Tout compte fait, Adessa et ses sbires ressemblaient plus que prévu aux morts de Sith. Se redressant, la guerrière frappa Nietzsche au flanc avec son pied intact, puis elle s'en prit à ses reins. Sonnée, la magicienne parvint pourtant à rouler sur elle-même, et dès que l'aiguille sortit de sa chair, toute douleur disparut. À quatre pattes, Nietzsche tenta de s'éloigner d'Adessa, histoire de reprendre ses forces. Par le passé, Jagang l'avait tabassée bien plus violemment que ça et elle s'en était toujours remise. Visant l'autre tempe de sa proie, Adessa lui décocha un coup de poing assez fort pour assommer un bœuf. Les poumons en feu et la vue brouillée, la magicienne lutta pour ne pas perdre connaissance. Du sang, elle le sentait sourdait de son nez et de sa bouche. Les coups ayant cessé, elle vit qu'Adessa était allée reprendre son épée. Pour en finir, sans aucun doute. Mais si Nietzsche parvenait à s'adosser à un mur, elle pourrait encore résister. Invoquant un filament de pouvoir, elle fit chauffer puis fondre une dalle juste devant les pieds d'Adessa. Hélas, la guerrière s'en aperçut et l'enjamba. Avec l'ombre d'un sourire et l'assurance d'un prédateur qui sait avoir remporté la partie, la moracite se tourna vers Thora.
« Sovrena, en combien de morceaux dois-je la découper ?»
Thora se leva, descendit de l'estrade et invoqua un dôme de pouvoir si puissant que des étincelles crépitèrent dans toute la salle.
« Tu en as fait assez, guerrière. Je finirai le travail. »
Nietzsche mobilisa ce qui lui restait de force. Habituée à la douleur, elle s'étonna pourtant qu'on puisse avoir mal partout en même temps. Obéissante, la moracite s'immobilisa.
« Je n'ai jamais eu de querelle contre Adessa. »
dit Nietzsche, les yeux levés vers la Sovréna. Acharnée à lutter, elle invoqua son don.
« Tu as osé me défier !» dit Thora. « Et maintenant, tu vas en payer le prix. Au rebut, la magicienne, à la fosse sceptique, ainsi plus personne !»
Thora propulsa sur Nietzsche un point d'air 10 fois plus puissant que la normale.
« Je dis bien plus personne !»
Une deuxième frappe suivie, encore plus forte.
« Ne s'avisera jamais !»
Trop faible, Nietzsche comprit qu'elle ne pourrait rien contre la troisième attaque.
« De contester mon autorité !»
Son bouclier déviant à peine 1/10 de la puissance du coup, la maîtresse de la mort, reine esclave et sœur de l'obscurité, fut propulsée contre une fenêtre comme un pantin désarticulé. Avant de traverser la vitre et de tomber dans le vide, elle dut concéder qu'elle venait de subir sa première déroute.